There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous Touchdown Actu, un nouveau rendez-vous consacré au pastis draft un jour une franchise, et on s'intéresse aujourd'hui à la situation des Miami Dolphins. Pas de choix du premier tour en l'occurrence pour la franchise floridienne, hein, qui s'est qualifiée en playoff, mais qui n'a malheureusement pas pu aller bien loin, la faute notamment à la blessure de son quarterback. On va essayer peut-être de voir un petit peu comment l'entourer un peu plus au cours de cette saison 2023, et pour parler notamment de la franchise des Dolphins, mon camarade Jean-Michel Boujard est avec moi. Salut Jean-Mi.
Hey, salut Greg, salut tout le monde, ça va?
Bon, écoute, ça va ma foi. Alors je disais, Miami c'est un cas très particulier dans cette draft, Jean-Mi, hein, certains l'auront peut-être déjà constaté. C'est-à-dire que généralement, on s'intéresse au premier, au deuxième, voire au troisième tour d'une franchise et à un sleeper, donc une bonne affaire qui se situe, admettons, entre le quatrième et le septième tour. Pour Miami, on va se donner un petit peu le luxe de creuser un peu plus en profondeur, notamment parce qu'on n'a pas trop le choix, puisqu'en l'occurrence, avec au jeu des différents trades, etc., etc., Miami se retrouve et des infractions, puisqu'on rappelle que le premier tour de draft a été rendu vacant par la NFL du fait d'investigation et de, on dirait, négociation un peu occulte l'année dernière entre Miami et certaines personnes, hein, tout simplement Tom Brady par exemple, hein, je crois qu'il y a eu Sean Payton également dans le lot. Donc voilà, des conversations qui n'étaient pas autorisées, des négociations, des discussions qui n'étaient pas autorisées, donc ça a été sanctionné lourdement par la Ligue. Du coup, on se retrouve avec un deuxième tour, le 51e choix pour Miami, un troisième tour, le 84e choix pour les Dolphins. Par contre, après, il faut aller jusqu'au 6e tour pour avoir la 3e sélection. Et donc, notre sleeper, a priori, ce sera le 7e tour, puisque donc, on va annoncer 4 choix pour Miami dans cette draft, sachant qu'il y a 4 choix aujourd'hui à la disponibilité des Dolphins. Première petite question, Jean-Mi, si je me permets, t'es pas forcément préparé, mais je suis curieux d'avoir ton avis. Est-ce que, si on prend la situation actuellement des Dolphins, il n'y a pas énormément de besoins en soi? Est-ce qu'un trade down, malgré tout, sur les deux premiers choix, ça te paraît quelque chose d'assez cohérent pour cette franchise?
Oui, c'est toujours possible, effectivement, puisqu'ils n'ont que 4 choix de draft. Donc, du coup, oui, pour ajouter de la profondeur, c'est important pour un effectif. C'est important aussi pour gérer la masse salariale. Donc, oui, c'est possible que ce soit un trade down ou que ce soit même envisager de donner des picks de la draft 2024, par exemple. Allez, je te donne un troisième ou un quatrième tour de 2024 quand t'as un troisième ou un quatrième de cette année pour, voilà, renforcer un petit peu plus l'effectif. Oui, c'est possible qu'ils bougent un petit peu lors de la draft, oui.
On sait que les Saints le font assez souvent, j'ai souvenir de Ravens par exemple également qui avait changé justement des choix un peu intermédiaires sur les drafts suivantes comme tu l'évoquais pour éventuellement pouvoir négocier, pouvoir grappiller un petit pic lors de la draft en question. On lance tout de suite les hostilités donc pour s'intéresser à cette nouvelle saison de Miami. Je le disais, deuxième année du coach Mike Daniel, donc pour renouer avec les playoffs. Avec quoi on entoure toi, Tagovailoa, et l'effectif actuel, donc floridien, avec ce deuxième tour et ce 51e choix pour toi?
Ben, moi, je sens bien un choix, tu vois, et c'est le choix de Jahmyr Gibbs, le coureur de Alabama. Alors oui, on va me dire, McDaniel, il utilise un gros comité. Oui, bien sûr, il y aura Mostert, il y aura Wilson, etc. Mais il n'y a vraiment aucun qui est un vrai coureur numéro 1. Il leur faut un coureur numéro 1. Tu l'as dit, comment on aide Tagovailoa ? Ben, c'est avec un coureur numéro 1. En 2022, les Dolphins étaient 23e NFL en yards par portée. Voilà, déjà, t'as tout compris. Il faut absolument améliorer cette moyenne-là. Et Jermaine Gibbs, ben, c'est juste ça. C'est un coureur qui est très explosif. Voilà, très explosif avec ses changements de direction, avec ses appuis. Il est capable de prendre de la vitesse, de faire des gros jeux. Donc, du coup, voilà. Et le jeu de course, forcément, tu ajoutes un tel coureur et ton jeu de course, il prend une toute autre dimension. Oui, tu conserves Mostert. Oui, tu conserves Wilson. Mais voilà, tu ajoutes Gibbs dans ce comité. Et forcément, ton jeu de course, c'est plus le même. Et ça, un jeune cornerback en a besoin. En plus, Jahmyr Gibbs, il a de très bonnes mains. De très bonnes mains. En 3 ans avec Georgia Tech, puisque il a commencé à Georgia Tech, puis à Alabama. Il a plus de 1 milliard après réception, 8 touchdowns après réception. Il a fait un seul drop en 44 réceptions en 2022. Donc il a des mains très très sûres, très très fiables. Et voilà. Et puis même pour les portées, il est très fiable. Hein. Je veux dire, j'ai vu une stat passer. Il a eu 151 portées en 2022. Il a fait aucun fumble. Aucun fumble. Donc voilà. Le gars, il ne drop pas. Il ne fait pas de fumble. Il est explosif. Il t'apporte dans le domaine aérien. Donc du coup, pour moi, c'est un bon choix. En plus, ben écoute, un ami qui est fan des Dolphins m'a indiqué que lors du Pro Day d'Alabama, il y avait Eric Studville, qui est le coach des running backs des Dolphins, qui était à ce Pro Day et qui a conduit quelques exercices de Jahmyr Gibbs. Donc bon, ça veut pas dire qu'ils vont le prendre, mais ça veut dire qu'ils étaient là, qu'ils l'ont vu.
Ça peut être un petit indice.
Et oui.
Ça peut l'avoir motivé.
Voilà, ils l'ont bien vu de très près. Et puis ils ont vu quoi ? Ben, ils ont vu Jahmyr Gibbs, un joueur fantastique. Donc du coup, ouais, moi je pense qu'avec le 51, le coureur Jahmyr Gibbs, ça serait une bonne option.
Oui, je suis assez d'accord et ce sera en adéquation un petit peu avec le choix que j'ai fait mais qui concerne pas en l'occurrence un running back. C'est ce besoin de vitesse absolument dans les systèmes de comment on appelle ça, de l'arbre Shanahan, c'est-à-dire que faut absolument apporter de l'explosivité, de la vivacité en toutes circonstances. En effet, on a vu que Miami avec une bonne deuxième partie de saison de Mostert était capable justement d'avoir un comité plus, mais si on a le luxe éventuellement d'aller chercher un running back d'avenir. Alors Victor dira qu'un running back d'avenir c'est 2 ou 3 ans, mais si on arrive à récupérer un running back qu'on peut avoir sur une période beaucoup plus longue en numéro 1 et qui en plus apporte, comme tu le disais, cette explosivité, cette capacité à sortir du backfield de manière hyper efficace, je vois pas pourquoi du côté de Miami on s'en priverait. Donc voilà, certes depuis quelques années, je crois que c'est Chris Greer, le prénom du general manager, il n'a pas l'air très enclin pour l'instant à drafter des running backs. Peut-être que ça peut changer justement avec cette nouvelle année de McDaniel à la tête de la franchise. Donc je disais, moi de mon côté, j'ai prôné également de l'explosivité, mais dans un tout autre registre, pardon, parce que je suis parti vers un tight end et vers ce qui est pour moi le tight end très clairement le plus explosif de cette draft, le plus vif. Très clairement, surtout qu'à l'heure actuelle, à mon sens, on n'a toujours pas vraiment remplacé Mike Gesicki qui est parti pendant l'intersaison du côté de New England. On a énormément de menaces dans le registre profond et écarté avec notamment Tyreek Hill et Jalen Waddle hein, qui savent faire énormément de choses mais qui en tout cas sont capables d'apporter sur la verticalité. Ça me paraissait important si on veut vraiment assumer le côté vraiment jeu hyper aérien comme ça pouvait être le cas l'année dernière. D'ajouter une cible supplémentaire et je suis donc parti vers Luke Musgrave, tight end d'Oregon State, dont on le répète toujours, les principaux points d'interrogation concernent avant tout la santé, parce qu'on voit que quand il a été capable de jouer, il a été un vrai playmaker, un danger notamment sur les tracés, encore une fois la capacité à se démarquer plein centre, et c'est là encore où ça peut apporter une cartouche supplémentaire à Miami d'être dangereux sur du jeu court, intermédiaire et profond pour être vraiment une équipe crainte dans de nombreux espaces, on dira, du jeu. Donc voilà, il s'est globalement bloqué, c'est pas le meilleur dans cet exercice-là, mais encore une fois, il a peut-être pas le gabarit d'un Michael Mayer par exemple ou d'un Alton Kincaid pour le faire, mais en attendant voilà, c'est un joueur qui a une belle marge de progression. C'est un gros pari, mais pour reprendre l'exemple, pour reprendre un petit peu l'historique que je disais de Chris Greer, quand il faut miser sur des joueurs qui ont quelques historiques de blessures un peu inquiétants, on se rappelle de Jalen Waddle, on se rappelle de Jalen Phillips également quand il est arrivé en provenance de Miami. Voilà, c'est des joueurs éventuellement sur lesquels on pouvait être assez craintif et sur lesquels Miami a dit, bah écoutez, nous on se sent confiant par rapport à l'avenir de ce joueur, donc pourquoi pas le tenter. Et voilà, je suis totalement d'accord avec la question du running back. Je me suis dit que justement, avec Mostert et Wilson qui étaient déjà, on dira, du côté de San Francisco et qui connaissent parfaitement le système McDaniel, peut-être qu'il y a également cette possibilité-là du côté de Miami de se dire. Et ce sera peut-être aussi une question de disponibilité aussi, hein, tout simplement, de savoir qui est disponible avec ce 52e choix, parce qu'on parle de deux profils qui peuvent très bien partir très vite dès le début du deuxième tour. Mais en tout cas, si une aubaine entre ces deux hommes se présente, je pense que Gibbs, ou en tout cas dans une moindre mesure, Musgrave, peuvent être des paris à tenter, pardon, du côté de Miami.
Oui, c'est sûr, c'est vraiment un poste à besoin aussi, comme tu l'as dit, remplacer Mike Gesicki. Et puis, là où il faut faire attention, c'est surtout pas regarder ses statistiques, parce que Oregon State, ça courait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, même quand il était en bonne santé, il n'a pas forcément des grosses stats, parce que voilà, c'est une université qui court beaucoup, quoi. Mais sinon, comme tu l'as dit, il a toutes les qualités athlétiques, il court des bonnes routes, et puis une petite image comme ça, il va slalomer un petit peu les défenses, parce que j'ai vu là, j'ai appris récemment qu'en fait, quand il était plus jeune, c'était un champion de ski. Voilà, c'est un champion de ski, donc écoute.
Oui, il est très complet. Il a fait du ski, du lacrosse, je crois. Enfin,
Ouais.
c'est vraiment un athlète hors norme, on va dire.
C'est ça, il va slalomer les défenses et tu vas voir, ça va faire des belles choses. Oui, ce serait un bon choix, Luke Musgrave.
Pour que Miami se retrouve tout chousse. Donc, on passe au troisième tour. Alors, manifestement, même si on n'a pas été hyper inquiet non plus offensivement du côté de Miami, il y a des choses à améliorer. Mais en tout cas, on est globalement d'accord sur une chose, Jean-Mi, c'est que pour le deuxième et le troisième tour, on part plutôt sur l'attaque et toi tu t'es focalisé fort logiquement sur la ligne offensive mais du coup plutôt sur l'intérieur pour ton troisième tour et ton 84e choix.
Oui, c'est ça. L'intérieur de la ligne offensive, pour moi, il y a vraiment un besoin parce que ben, Liam Eikenberg, voilà, le chouchou de Victor, hein, voilà, un petit coucou à Victor. Ben, il est pas très performant, alors je pense qu'ils vont le garder cette année, mais qu'est-ce que ça va donner, c'est pas certain. Connor Williams, le centre, il sera peut-être re-signé à la fin de cette saison, mais il sera en fin de contrat en tout cas à la fin de la saison. Du coup, moi, j'y vais plutôt avec un joueur comme Jared Patterson de Notre-Dame. Et pourquoi ce joueur en particulier? Ben, c'est parce que justement, il a de la polyvalence. Avec Notre-Dame, il a joué au poste de centre, il a joué au poste de guard. Donc, du coup, il t'offre cette polyvalence-là. C'est-à-dire que tu l'ajoutes au mix lors du camp d'entraînement et puis tu vois si tu as un besoin plutôt en guard, un besoin plutôt au centre. Et c'est un joueur qui, pour cette saison et aussi pour l'année prochaine, donc suivant qui tu re-signes, qui tu laisses partir, ben, il t'offre cette polyvalence-là. Donc, du coup, c'est très intéressant. Jared Patterson, ben voilà, il est bon surtout pour le run, mais il n'est pas non plus mauvais en protection. Et puis, il était capitaine à Notre-Dame, ça veut dire quand même quelque chose. Quand tu viens de Notre-Dame, ça veut dire que tu as joué des matchs devant 5 000 personnes, des retransmissions de télé nationales. Donc, tu seras pas non plus, tu n'auras pas les jambes qui tremblent en NFL. Donc, voilà, c'est quand même quelqu'un qui t'offre un bon package. Alors, c'est pas le plus fluide, c'est pas le plus athlétique, mais c'est un bon package entre sa polyvalence, son expérience et puis son état d'esprit. Moi, je pense que ça pourrait être un bon choix pour les Dolphins en fin de troisième tour.
Oui, je te rejoins globalement. C'est un joueur à la fois aguerri. En fait, ce qui est très particulier avec Jared Patterson, et c'est peut-être ce qui frustre certains observateurs dans ce processus draft, c'est que c'est un joueur qui est globalement en effet très aguerri, hein, mais dont la principale question aujourd'hui, c'est peut-être de savoir s'il n'a pas déjà atteint son plafond. C'est peut-être ça ce qui fait un petit peu peur, parce qu'on a l'impression que il n'a pas énormément progressé par rapport à ces dernières années, mais ça n'en fait pas moins, comme beaucoup de linemen d'intérieur de Notre-Dame d'ailleurs ces dernières années, un joueur qui va être globalement assez complet avec des points perfectibles, hein, tu le disais, avec notamment des qualités athlétiques qui seront peut-être un peu plus relatives que d'autres, mais en tout cas on sait que ça va être un joueur besogneux qui va pas hésiter à pouvoir éventuellement porter ce groupe, apporter en tout cas peut-être un peu plus d'intensité et de férocité, on dira. Mais voilà, et puis rejoindre un petit peu le contingent de joueurs de Notre-Dame, parce que tu le disais, il y a déjà le chouchou de notre camarade Victor en son sein. Pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, alors moi je suis resté sur la ligne offensive, je suis parti un peu plus sur l'extérieur, parce que je suis pas encore totalement rassuré par ce que je vois. Il me semble qu'Austin Jackson, alors je sais plus s'il y avait une histoire de cinquième année en option ou pas, je vais pas dire de bêtises. Je l'avais vu en son temps, mais j'ai un gros redoute là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Austin Jackson, pour l'instant, on n'est pas convaincu à 100%. Il y a Kendall Lamb qui est en backup, mais qui me semble à une saison écourtée la saison dernière. Terron Armstead, c'est toujours la même problématique. On sait que voilà, c'est un homme de confiance, on dira, du coordinateur offensif Frank Smith. Mais malgré tout le talent qu'il a, c'est aussi une bombe à retardement d'un point de vue blessure. Donc, je suis plutôt parti sur la position de tackle. Et en l'occurrence, sur un gros pari là aussi, qui serait éventuellement Jalen Duncan, le tackle de Maryland. Alors, Jalen Duncan, c'est un peu ce genre de tackle où j'ai difficilement eu du mal à admettre le fait qu'on l'annonçait en premier tour pendant très très longtemps. Mais à l'inverse, genre, je le vois pas non plus dégringoler comme certains l'annoncent par exemple au quatrième ou cinquième. Donc je vois un côté un peu plus intermédiaire. C'est un joueur qui a un profil physique et athlétique qui est assez détonnant. Maintenant, c'est peut-être une certaine exigence, peut-être. Alors, pour le coup, on n'est pas sur le même profil que Jared Patterson, qui lui sait faire beaucoup de choses, mais qui a peut-être atteint son plafond. Je pense que Jalen Duncan, il y a des choses peut-être à améliorer. À commencer déjà par un peu plus de constance et de détermination. Ça tombe bien puisque, à mon sens, si je le vois sélectionné au troisième tour, je le vois pas comme un titulaire immédiat, mais plutôt justement comme un joueur qu'on peut couver pour continuer de le développer un petit peu, améliorer très clairement sa technique, pas sa fatigue, parce qu'encore une fois, voilà, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, son côté, encore une fois, focus sur l'ensemble d'un match. On l'a vu beaucoup lever le pied. Un petit peu, en tout cas, beaucoup plus souffrir sur certaines fins de match face à des grosses écuries. Et je pense encore une fois que du côté de Miami, dans une attaque en plus qui va beaucoup jouer de la zone, on l'a vu quand même à son aise du côté de, pardon, de Maryland. En plus, avec un coordinateur offensif qui est un coach de ligne offensive de base, je pense que c'est pas un environnement qui serait pour lui déplaire et pour lui permettre de progresser petit à petit. Alors peut-être à droite dans un premier temps. Et pourquoi pas pour prendre la suite de Terron Armstead par la suite, si vraiment on se rend compte que d'un point de vue blessure, ça devient compliqué pour l'ancien des Saints.
Oui, c'est ça, exactement. Moi, je trouve que ça serait un très bon fit aux Dolphins parce que, comme tu l'as évoqué, c'est quelqu'un de très mobile, très athlétique, et les Dolphins, ils jouent souvent en zone. Donc voilà, ça, c'est juste parfait. Voilà, pour tous les schémas où tu dois bouger, où tu dois ouvrir des brèches, aller sur le second rideau, etc. Donc oui, Jalen Duncan, il t'offre déjà cette possibilité-là. Oui, le truc, comme tu l'as évoqué au début, pourquoi il a glissé un peu, c'est parce que finalement, après ces trois premières saisons, on attendait encore plus de lui. Et puis oui, voilà, dans les gros matchs, contre Michigan, Ohio State, tout ça, il a été un petit peu défaillant. Des fois, il s'est fait manger, mais il a quand même de sacrées qualités, et puis comme tu le dis, un très très gros potentiel. Donc oui, tu le prends en sixième homme, ça fait de la compétition au camp, ça te fait un sixième homme que tu fais rentrer sur certains packages, peut-être même il peut te dépanner si tu as des blessures, il peut même glisser à l'intérieur s'il faut avec sa mobilité. Donc oui, ça serait un très bon choix, je pense.
Et on rappelle que cette année, il protégeait Tua Tagovailoa.
Ah, ben oui.
Arrivé à Miami, voilà, il sait ce que c'est de protéger un Tagovailoa.
C'est donc, ça, voilà. Ben
ça,
oui.
Ça peut être également un argument à mettre à son actif.
Ouais, c'est pas mal, oui.
On passe au reste du coup, le troisième choix des Dolphins, c'est encore une fois le choix 197. Hein. On va essayer de vous vendre un joueur qui sera principalement, on va le dire, peut-être plus une bonne affaire, Jean-Mi. T'es resté sur l'attaque, en l'occurrence, et de nouveau sur le backfield offensif, dis-nous en plus.
Oui, c'est ça. Ben écoute, bon, je suis tout à fait d'accord quand tu parlais de Luke McGrath, c'est un besoin au poste de tight end. Donc là, j'y vais avec un joueur qui ressemble un peu à un tight end, mais c'est pas vraiment un tight end, c'est Hunter Lupke, je sais pas comment l'appeler, moi, le fullback ou le couteau suisse, en fait, qui nous vient de North Dakota State. En fait, Hunter Lupke, ben il peut aussi jouer tight end, même s'il manque un peu de gabarit, mais en fait, c'est vraiment le couteau suisse, c'est-à-dire penser à Kyle Juszczyk, voilà, des 49ers, que justement, McDaniel a très bien connu, 49ers, et il a vu l'apport d'un joueur comme ça, très polyvalent, c'est-à-dire que il peut bloquer pour ton coureur, voilà, comme un fullback, il peut aussi protéger ton quarterback en troisième tentative, il peut aussi courir avec le ballon, il a quand même inscrit encore 9 touchdowns en 2022, 8 en 2021, il peut aussi attraper les ballons, je veux dire, il a signé 4 touchdowns après réception en 2022, 3 en 2021, voilà, il sait tout faire, et ça, c'est très très précieux, et surtout, comme je le dis, McDaniel a bien vu l'efficacité d'un Juszczyk aux 49ers. Alors, je sais, ils ont déjà un fullback, Alec Ingold, que d'ailleurs, j'aime bien, qui était passé par les Raiders, mais franchement, Hunter Lupke, il est meilleur que lui. Ingold, il jouera sur sa dernière année de contrat. Tu peux même le couper si Lupke fait l'affaire au camp, parce que voilà, tu ajoutes un joueur comme ça. Admettons qu'ils prennent pas un tight end avant, ce qui est quand même une grande possibilité, mais s'ils font pas, ben, tu rajoutes comme ça un couteau suisse qui sait faire un petit peu de tout à ton attaque, et pour moi, ça serait très précieux.
Oui, pas grand chose de plus à dire. C'est vrai que j'aime beaucoup la comparaison avec Kyle Juszczyk. C'est vrai que malgré tout ce qu'il est capable de faire avec Ingold, on est sur un profil assez différent et en effet, ça peut parfaitement s'incorporer dans le système offensif de Mike McDaniel. Donc voilà, je vais pas répéter globalement ce que tu as dit parce que je suis assez d'accord sur tous les points. Je vais enfin partir en défense avec ce sixième tour. Alors je ne sais pas s'il sera forcément disponible au sixième tour, mais de par sa situation, on dira un petit peu certains impondérables sur son poste, c'est possible qu'il glisse un petit peu. Je parlais de Cam Jones notamment, linebacker d'Indiana, hein. On sait qu'Indiana ces dernières années c'est un peu plus compliqué en college football, mais il sort quand même quelques linebackers. On se rappelle de Micah McFadden notamment qui a eu pas mal de répétitions cette année avec les New York Giants, hein, pour sa saison rookie. Cam Jones, on est vraiment dans le profil du gros run stopper. J'allais dire pur et dur, c'est un joueur qui sait faire quand même pas mal de choses. Ça peut être un weak side, un joueur côté faible assez intéressant, capable de faire d'accomplir pas mal de tâches, hein. On l'a vu pas mal blitzer, notamment du côté d'Indiana. Mais son rôle, principalement, je pense, ça va être d'assurer le run stop, où il est vraiment capable d'être intense, appliqué en termes de plaquage. Ça a été un leader défensif d'Indiana pendant très très longtemps. Malheureusement, ça fait partie des impondérables que j'évoquais. Il y a une saison 2022 qui a été écourtée notamment par une blessure au pied. Mais on a vu que c'était vraiment la figure de proue de cette défense des Hoosiers. Et je me dis que du côté de Miami, avec l'arrivée notamment de Vic Fangio en tant que coordinateur défensif sur un groupe qui est pas non plus d'une profondeur absolument dingue, surtout je trouve avec ce genre de profil, hein. On a toujours Jerome Baker, on a de nouveau, alors on a toujours Duke Riley, il y a David Long également qui est arrivé, je crois, pendant l'intersaison en provenance de Tennessee. Mais voilà, le profil un peu middle linebacker pur, j'oublie pas Channing Tindall aussi, hein, en l'occurrence, mais voilà, avoir un linebacker vraiment pur, capable en plus de dépanner sur l'équipe spéciale, et ça, Cam Jones a prouvé qu'il était capable de le faire. Voilà, c'est tous ces profils-là. Encore une fois, pour un sixième tour, c'est forcément un joueur qu'on attend en tant que solide special teamer. Donc je me dis que ça peut être un choix qui peut fitter pour Miami pour éventuellement aider la défense et en plus apporter un peu plus d'intensité, comme je le disais, et d'aide sur les équipes spéciales.
Oui, mais c'est ça, exactement. Écoute, je vais pas reprendre ce que tu as dit, je suis d'accord. Voilà, contre la course, il est très bon. J'en avais déjà parlé lors de la pastille, justement, de Indianapolis Colts, puisqu'il vient d'Indiana. Et oui, c'est un très bon joueur là-dessus. Alors, il manque un petit peu de gabarit, il est peut-être un poil plus âgé. Lui aussi, il a peut-être atteint son plafond, mais c'est un bon joueur. Et puis voilà, il a 5 saisons universitaires, dont 3 comme capitaine. Donc, rien que ça, voilà, c'est un joueur que tu prends tard dans la draft, mais il a une super mentalité. Il est productif sur le terrain, il va jouer rotation linebacker et équipe spécial, écoute, Banco, c'est très bien.
Déjà avec l'école, je vous voyais plutôt aux alentours du sixième ou c'est peut-être un petit peu bas à tes yeux?
Ouais, je pense que c'est peut-être un petit peu bas. Il partira sans doute un petit peu avant. Alors, même au quatrième, je pense pas, mais allez, c'est un bon cinquième tour. Mais bon, ouais. Après, on n'est pas là à pinailler de toute façon. On est là aussi pour vous présenter des joueurs. Donc, cinq ou sixième tour, de toute façon, il sera vers là. Voilà, donc.
Tout à fait. Bah, on termine du coup avec une autre bonne affaire, hein, notre septième tour en l'occurrence pour les Dolphins. Tu es reparti vers la défense toi aussi et du coup bah Cam Jones c'est une possibilité, tout comme un autre linebacker venu de Duke.
Oui, voilà, exactement. Tu vois, tu parlais d'un linebacker, je vais en parler aussi d'un autre, parce que ouais, il faut rajouter un petit peu de profondeur à ce poste-là, donc pourquoi pas Shaka Hayward de Duke. Voilà, moi ce que j'aime bien chez lui, si je compare avec Cam Jones, c'est que déjà il est plus grand, il a une plus grande envergure et ça se voit sur le terrain. C'est pas juste de dire il a des longs bras, c'est juste qu'on le voit très bien dans sa technique de plaquage, il se sert très bien de ses longs bras, il sert très bien de ses bras aussi des fois pour arracher des ballons. Voilà, lui aussi c'est plus un défenseur contre la course, il a des qualités en poursuite, il a plutôt une bonne vitesse, c'est un bon plaqueur. Alors en 2022 il a montré quand même de la progression en couverture, mais c'est pas non plus le super linebacker qui va couvrir, c'est pour ça que lui aussi va glisser un petit peu à la draft. Mais lui aussi, voilà, c'est un joueur solide qui en plus a été très bon en équipe spéciale lui aussi. Donc quelque part on reprend un petit peu ce que tu disais pour Cam Jones, c'est quelqu'un qui va apporter de la rotation dans ton escouade de linebacker et puis être bon en équipe spéciale aussi, et c'est très important dans un 53.
Oui, vraiment une vraie force globalement et une capacité à être assez complet sur la couverture. Il est capable de parfaitement dépanner, donc là en l'occurrence sur les profils assez hybrides qu'il y a déjà du côté de Miami, c'est un joueur qui peut parfaitement tirer son épingle du jeu pour éventuellement remplacer d'autres joueurs qui deviendraient peut-être un peu plus coûteux. Donc le tenter en 7e tour, c'est pas forcément une mauvaise idée pour le front office floridien. Mon dernier choix, c'est Broderick Martin, defensive tackle de Western Kentucky. Alors encore une fois, c'est sur une position où je trouve qu'il y a des besoins malgré tout du côté de Miami. Ils sont pas criants à l'heure actuelle, mais on a beaucoup de joueurs en fin de contrat à la fin de la saison. Et c'est peut-être pas une mauvaise idée d'essayer de tester un autre type de profil. Un profil vraiment de nose tackle pur. J'ai pas dans l'idée qu'ils en aient énormément du côté de Miami à l'heure actuelle. Et je pense que ça fera pas forcément de mal à Vic Fangio d'avoir de nouveau un vrai nose sur son front 3 pour vraiment être capable de faire respirer efficacement par exemple un Raekwon Davis. En soi, Broderick Martin, je vais pas vous le survendre, hein, c'est un joueur qui sait faire quand même pas mal de choses, mine de rien, pour son gabarit, une mobilité assez, assez intéressante. On voit que c'est un joueur qui est agressif dès le snap. Alors, il évoluait dans une conférence assez relative l'année dernière, donc c'est vrai que voilà, on va pas se dire que forcément, du jour au lendemain, face à une opposition un peu plus importante, il va tout renverser. Mais en tout cas, on voit que c'est un joueur qui a beaucoup de cœur, beaucoup de volonté, qui va être capable vraiment d'attirer pas mal de linemen pour éventuellement libérer des brèches. Et ça peut être un joueur sur certaines séquences qui peut faire beaucoup, beaucoup de bien, encore une fois, dans la rotation. Et je me dis que ça peut être un pari à tenter aux alentours du 7e tour, parce que je pense qu'il y aura pas mal de joueurs qui seront sélectionnés avant. Donc ça peut être une bonne recrue. Je disais, en provenance de Western Kentucky, il me semble qu'il était en 2e division universitaire avant, si je ne me trompe pas.
Oui, oui.
Donc voilà.
North Alabama.
C'est un joueur qui progresse. Voilà, c'est ça. Un joueur qui progresse petit à petit aussi. Donc il y a aussi cette idée-là du côté de Miami d'avoir un joueur qui peut avoir une certaine marge de progression également en arrivant sans forcément avoir énormément de prétention.
Oui, mais c'est ça, c'est très bon joueur que tu ajoutes en fin de draft, parce que il est très très costaud, effectivement, faut ajouter un petit peu de rotation, comme tu disais, derrière Raekwon Davis, donc tu ajoutes un petit peu de rotation avec ce gars-là qui est très costaud, qui en plus a quand même une bonne accélération, je trouve, il est plutôt fluide pour son gabarit, donc, alors attention, je suis pas en train de vous dire que c'est un pass rusher, c'est pas Kalija Kansé, c'est pas, d'accord, mais c'est vraiment ce type de nostacle qui quand même, voilà, c'est pas non plus une statue qui bouge pas, qui prend juste de la place, non, il sait avancer, il a un bon premier pas, etc. Donc oui, c'est quelqu'un que tu mets dans ta rotation, il te rend des services comme ça, des petits bouts de match où il faut vraiment défendre la course, oui, c'est important. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, moi, Broderick Martin.
Tout à fait, bah écoute, tant mieux, me voilà rassuré. En tout cas, on a brossé les différents choix des Miami Dolphins en vue de cette draft 2023. Je te remercie, Jean-Mi, d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dès demain pour un nouveau podcast consacré à une franchise NFL, et on parlera en l'occurrence des Los Angeles Chargers. À très vite sur les antennes de TDA. Salut à tous.
Allez, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a hacer tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.